Donc, j'invite les deux précédents intervenants à rejoindre. Et là, vous allez peut-être commencer. Vous avez sûrement des questions à poser aux intervenants. Donc, on va commencer comme cela, si vous voulez bien, et parler de médiation. C'est vrai que les artistes peuvent être eux-mêmes des médiateurs par rapport à des documents d'archives, mais aussi à un monument historique, on l'a vu, à une œuvre littéraire aussi. Eux-mêmes, enfin, je trouve que des œuvres artistiques peuvent vraiment être une parfaite médiation. Donc, on vous donne la parole pour les questions de ce qui a précédé.
Question grave et délicate. On s'est même vraiment bien frité en conseil scientifique avec le commissaire. Bon. Je l'ai dit, on a rien exposé qui ne soit pas possible d'exposer au terme de la loi d'archives, qui ne veut pas dire diffuser l'image d'autrui. Or, une exposition, c'est une forme de diffusion, donc droit à l'image, etc. Alors là, je vais vous répondre de manière assez franche. Eh ben, on a pris des risques. On a pris des risques, on a décidé que le fait d'exposer des fiches, forcément, devait couvrir une bonne partie du XXe siècle. Sinon, le propos était incompréhensible. Voilà. Donc, on a pris des risques. Et on s'est dit, ben voilà, si quelqu'un vient visiter l'expo, il dit, mais de quel droit avez-vous exposé mon père, ma grand-mère, ma tante, moi-même, et je vous traîne devant des tribunaux, eh ben, so what? Ça peut arriver. Ce qui est plus embêtant, c'est pour le catalogue. Alors là, effectivement, pour le catalogue, on a pris des... Mais c'est plus facile pour un livre-catalogue, hein, c'est que c'est un coup sur Photoshop. Dans l'expo, en revanche, on a tout laissé, de manière parfaitement transparente. Sauf, et je l'ai dit quand je suis intervenu, c'est que... Mais là, ça relève plutôt d'une question de morale. Moi, je ne me voyais pas exposer sans flouter le patronyme des jeunes femmes prostituées, avorteuses des années 20 ou 30, alors que je pouvais. Des enfants nomades des années 20, etc., etc. Alors après, c'est posé le problème justement des fichiers sensibles, donc les fichiers juifs. Au début, moi j'avais envie de flouter les patronymes. Et Jean-Marc Berlière, qui est historien de la police, m'a dit « Mais Pierre, mais c'est n'importe quoi, c'est la double peine ». Ces gens-là ont été stigmatisés de par leur confession à l'époque de Vichy, et vous en rajoutez une couche. Bon, je parle franchement, hein, on est entre nous. Voilà. Et donc, petit à petit, en discutant entre nous, dans le conseil scientifique, avec les scénographes aussi, on s'est dit, ben voilà, on prend le risque. Ben, Il ne s'est rien passé. Excusez-moi. Quelqu'un a reconnu sa mère dans un des fichiers de la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, ben voilà, elle m'a écrit un petit mot très gentil, mais elle ne m'a pas... Voilà, il s'agit pas d'aller au contentieux. Mais c'est un risque, et c'est la raison pour laquelle on a décidé très vite de ne pas exposer de gens vivants. Parce que ça aurait été très chic, ça, hein, d'exposer les rockstars, les artistes, etc. On pouvait, hein. Et alors là, c'est des milliers d'heures au téléphone avec les agents, quoi. Donc là, hors de question. Il y a d'autres priorités dans ces cas-là. Voilà, j'ai répondu à votre question.
Et alors, plus sur la médiation maintenant, je garde un peu le micro, désolé. Vous avez parlé de l'esthétisation à propos notamment du livre. Personnellement, j'ai peut-être l'impression que vous aviez donné gratuitement dans l'exposition un livret très complet.
Alors voilà, ça c'est la marque de fabrique des archives. Nous sommes un service public régalien. Communiquer les archives, c'est obligatoire, c'est dans la loi. Valoriser les archives, entre nous, ça dit, c'est pas du tout régalien. Dans un service d'archives qui n'a pas d'argent, les expositions, il n'y en a jamais. Donc nous, on a de l'argent, on fait des expositions. Mais on considère que la valorisation des archives à travers le musée des archives nationales, le parcours permanent des expositions, c'est finalement une continuation de l'activité d'une salle de lecture. Sauf qu'on ne montre pas les archives à des lecteurs, à des usagers des archives, à des administrations, mais au grand public. Et on tient à ce que le support de visite soit gratuit, comme est gratuit l'inventaire, qu'il soit papier ou en ligne. Donc ça, c'est une spécificité des archives nationales. Je sais très bien que dans beaucoup d'établissements, ça ne se fait pas. Le livret est gratuit, hein, c'est des cartels développés, c'est la restitution des panneaux, mais c'est de la bichromie, il n'y a pas d'image, mais on le donne. Voilà. Le catalogue, c'est autre chose. Le catalogue, il se vend, Hein, et je vous parlais d'esthétisation. Bon, bah, c'est pas un livre d'art. C'est un livre d'histoire illustrée d'images. Voilà.
Mais en fait, j'allais venir plutôt à... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment au Jeu de Paume, il y a une exposition de Mathieu Pernaud qui a travaillé avec des familles de gens du voyage en Arles. Et il les suit depuis de nombreuses années. Et il a réalisé un peu ce travail de les faire parler de leur internement, notamment dans des camps. Et justement, le propos du Jeu de Paume, c'est de dire que l'artiste peut être médiateur à ce moment-là, parce que c'est la transcription, en fait, et la monstration d'une histoire qui n'est véhiculée que par l'oralité chez ces personnes. Et donc, du coup, c'est lié à leur culture. Et là, je me demandais s'il n'y avait pas effectivement une aide de la part des artistes, parce que même si on a des documents dans les institutions comme les archives qui ont sujet à ces personnes, on n'a pas forcément l'histoire qui va avec ces documents. Et dans ce cas-là, je me suis rendu compte que... je voulais savoir jusqu'à quel point vous, en tant qu'archiviste, vous pouvez engager des relations avec des artistes qui, eux, ont un contact humain et assez riche, surtout dans la durée, avec ce genre de...
Alors bien sûr, ça c'est l'interdisciplinarité, hein, il nous arrive de le faire. C'est difficile, alors pas seulement pour des questions d'argent, on aurait pu faire des installations de Boltanski pour fichier. Hein. Mais c'est vrai que c'est une question de priorité, parce que ça demande beaucoup de temps, en fait, d'énergie à négocier avec l'artiste, etc., etc. Trouver la place dans le lieu, hein, on en a beaucoup parlé à l'instant. Alors c'est vrai que ces interventions d'artistes, souvent, elles permettent d'alléger un peu le propos, hein, de restituer le discours, le contenu, le parcours de l'exposition à travers une vision d'artiste. Ça, c'est très important. Malheureusement, on ne peut pas le faire systématiquement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Hein.
Moi, je peux répondre si vous voulez, parce que j'ai beaucoup utilisé, enfin, entre guillemets, des artistes pour justement servir de médiateur. Et notamment avec des documents d'archives les plus sensibles, c'est-à-dire qui parle vraiment de la vie intime des individus, et il y en a plein, les archives judiciaires notamment. Et je peux citer comme ça une céramiste avec laquelle on avait monté une exposition sur ce qu'il y a de plus intime, donc dans les archives, et qui concernait les femmes, et notamment les infanticides, les avortements, etc. Donc, c'est un sujet difficile, exposer les documents comme cela, tout cru, même si derrière, bien sûr, on peut historiquement faire un propos historique, mais ça servait vraiment de médiation. C'est-à-dire qu'elle avait créé des œuvres avec beaucoup de sensibilité, qui accompagnait chaque fois le document. Donc c'est un lien avec le document. Et un deuxième exemple comme ça qui me vient, c'est sur les harkis, notamment avec une artiste photographe. Et là aussi, c'était des photographies, donc on les a exposées, les harkis, les enfants, les fils et les petits-fils, et puis les femmes, leurs filles, etc. Mais là, c'est avec l'accord, évidemment, de ces personnes qui étaient là, et c'était une façon pour eux, avec des documents d'archives, qui les citaient enfin, qui les rendaient visibles enfin, puisqu'on avait voulu les rendre invisibles dans les villes. C'était une façon pour eux d'entrer dans notre histoire commune. Donc oui, l'artiste, enfin, alors les moyens, moi j'en avais pas beaucoup dans mon poste précédent, mais on peut quand même faire des choses, de belles expositions avec les moyens du bord, mais on peut faire et travailler justement avec les artistes. Je suis sûre, enfin, vraiment à chaque fois ça fait... Ça a monté aussi l'archive, enfin, comme une œuvre d'art aussi. Hein. Ça l'a fait vraiment mettre en valeur, et c'est vraiment un très très bon médiateur, l'artiste.
Alors, si je peux me permettre, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu sur ce que j'appelle esthétisation. Là, s'agissant des archives, le danger, il était à vouloir esthétiser à travers une maquette intérieure d'ouvrage, une qualité de papier, une qualité de photogravure, des documents qui ne... Ça, c'est mon point de vue, qui ne peuvent pas se prêter à ce genre d'esthétisation via un catalogue. Deuxième point, l'esthétisation, c'est aussi la scénographie. Hein, l'encadrement, bon, passe-partout, la qualité de la baguette, etc., etc. Et moi, j'ai été assez sensible à une énorme polémique qu'il y a eu il y a une dizaine d'années au musée de, enfin, à l'hôtel de Sully, l'exposition de photographie qui s'appelait La mémoire des camps. Vous savez que ça a coûté très très cher au commissaire de l'exposition parce que ce monsieur a décidé d'exposer les rarissimes traces photographiques de, la, de l'univers concentrationnaire. Hein. Vous le savez que les nazis ont bien fait les choses en partant, ils ont tout brûlé. Donc il y a des épaves de, cette, de la Shoah par balle, de la Shoah par extermination, etc., etc. Et ces photos, qui sont souvent des photos de la taille d'un timbre-poste, parce qu'elles ont été prises à la dérobée, soit par les bourreaux, soit par les victimes, hein, et ben voilà, elles ont été traitées comme des photos d'artistes. Et là, je vous assure que le public a très, très mal réagi. Voilà, parce que c'est une, y a une part d'imposture de mettre, de traiter sur le plan scénographique des photos d'artistes photographes qui sont dans une démarche artistique, que ce soit des photos du photographe du 19e siècle ou du 20e siècle, et des gens qui ont pris des photos dans une démarche, hein, entre nous soit dit, qui n'avaient rien d'artistique. Donc là aussi, c'est de notre responsabilité, nous, quand on est commissaire scientifique d'une exposition et qu'on a quand même, hein, notre volonté à imposer à un scénographe, de dire non, non, voilà, ça, non, je ne veux pas que vous encadriez ces photos. On va les présenter à la verticale, inclinée, à plat, ça peu importe, mais vous débrouillez, je ne veux pas voir de passe-partout. Voilà. Vous les montrez de façon brute. Si elles sont cornées, ces photos, si elles sont déchirées, découpées, s'il y a des trucs écrits au recto, vous montrez, enfin, verso, pardon, vous montrez le verso, vous dépoussez, hein, il y a des techniques de vitrine. Opistographe, je crois. C'est ça ? Opistographe. Une vitrine opistographe, c'est celle qui permet de voir un objet ou un document recto verso. Voilà. Vous vous débrouillez, c'est votre boulot. Vous, scénographe, hein, vous me trouvez donc des dispositifs qui permettent de montrer ce que je veux exposer de façon brute. Je ne veux pas voir d'encadrement. Voilà. C'est ça pour moi les dangers de l'esthétisation. Ça n'est pas le fait de faire venir un artiste dans le parcours de l'exposition qui va donner sa vision. C'est en termes de scénographie et d'édition du livre catalogue de faire attention. Voilà. Pour en terminer avec l'expo de l'hôtel de Sully, hein, sur la mémoire des camps, ça a été, vous étiez trop jeune pour vous en souvenir, je pense. Mais ça a été d'une violence inouïe. Hein. Vous savez que l'expo a failli fermer. Les gens se sont dit, on n'esthétise pas la souffrance. Voilà, c'est tout, point à la ligne.
J'aurais une question pour M. Gagneux. Voilà, merci pour votre intervention qui était très... Très agréable à suivre d'abord, et puis très excitante, pour reprendre le terme de Balzac. Vous montriez bien, il me semble, les écueils d'un commissaire d'exposition, de quelque nature qu'elle soit, d'art contemporain pour Alechinski, mais d'art tout court ou d'histoire dans un monument historique qui est à la fois lui-même très excitant pour montrer quelque chose, mais vous nous l'avez bien montré, et très difficile. Par-delà cette coopération entre Balzac après sa mort et Alechinski, quels sont les moyens que vous mettez en œuvre à la maison de Balzac à Paris, faire lire ou relire Balzac, qui était vraiment un mot d'ordre, je ne sais pas si c'est un PSC, mais enfin, très légitime. Alors, c'est la gageure de toute maison d'écrivain. Comment peut-on s'assurer que le visiteur de la maison, lorsqu'il sort, lise ou relise l'écrivain ?
Alors, on n'a pas moyen de s'en assurer. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, en revanche, on voit bien que certains visiteurs achètent Balzac en sortant. Et on entend aussi très souvent dans les salles des gens dire « Il faut vraiment que je relise Balzac. J'ai chez moi un Père Goriot, une Eugénie Grandet, un cousin Ponce qui traîne dans un coin. Dès ce soir, c'est promis, je m'y remets. » C'est vraiment notre objectif. Alors, comment faire relire Balzac ? La question, elle est complexe. En réalité, très complexe parce que les visiteurs sont nombreux, ils sont très différents. Nous avons en plus un public d'étrangers assez important. Et puis, le public a beaucoup évolué. Le musée, pendant assez longtemps, a été un lieu de pèlerinage à l'attention des Balzaciens fous. Alors, c'est des Balzaciens fous qui l'ont créé, il ne faut pas se leurrer. Et donc, les gens se retrouvaient entre eux sur l'endroit où avait vécu leur grand homme. Ils respiraient l'air du grand homme. Ils voyaient l'endroit où il était assis, donc ils l'imaginaient en train de travailler. Mais ils connaissaient tout. connaissait sa vie, connaissait son œuvre, et jusque dans les moindres détails. Alors évidemment, ce public-là, maintenant, il était un peu en voie de disparition. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Balzac n'est plus forcément obligatoire dans l'enseignement secondaire. Et puis, la biographie de Balzac est pratiquement passée à la trappe. Donc, si je vous parle aujourd'hui de Laure de Berny, il y en a peut-être deux, trois qui savent qui c'est, mais enfin, pas beaucoup plus. Un Balzacien fou, vous lui parlez de Laure de Berny, c'est un flash fantastique, parce que d'un seul coup, vous avez une correspondance amoureuse qui revient à l'esprit, vous avez toutes les œuvres de Balzac où il parle des souffrances des femmes, etc. Ça fait une vraie déflagration, si vous voulez. Il y a une émotion très forte qui est assez similaire à celle que peut éprouver quelqu'un qui fait un pèlerinage. Un catholique qui va à Lourdes, il a quelque chose, il ressent quelque chose de très fort parce que c'est en lui. Le même catholique, vous le mettez sur le Parthénon, il n'éprouvera aucune émotion religieuse. Eh bien, aujourd'hui, le problème de nos visiteurs, c'est qu'on a des visiteurs qui n'éprouvent aucune émotion balzacienne en arrivant sur le site. Donc, ce sont ces gens-là à qui il faut qu'on s'adresse aussi pour les amener à lire. Donc, on ne va pas utiliser tellement la biographie, parce que la biographie s'ennuie, on n'utilisera certainement pas l'histoire, et on va véritablement insister sur l'universalité de ce qui est intéressant, c'est-à-dire de l'œuvre. Et là, il s'agit effectivement, c'est là où ça devient compliqué, mais intéressant précisément, avec des objets, d'arriver à éveiller l'attention des gens pour leur donner envie de lire. Alors, on a eu pas mal d'essais. Il y a eu évidemment des essais qui ont complètement raté, mais lamentablement, on a des idées géniales, on les met en œuvre, et puis ça fait un flop, mais alors total. Et puis, il y a des choses qui marchent bien. Alors, c'est plutôt ça dont je vais vous parler, évidemment. D'abord, c'est ce que vous verrez au musée. On a par exemple une salle qui a une très grande efficacité, qui est entièrement composée de plaques d'impression. Et donc, on a, dans la même salle, vous avez 450 personnages de Balzac qui vous regardent tout autour de vous. Donc, c'est des petites packs d'impressions et vous avez de tout, parce que vous avez des gens très connus, vous avez Vautrin, vous avez Rastignac, vous avez Eugénie Grandet. Et puis, à côté de ça, vous avez des gens que vous n'attendez pas forcément à rencontrer, comme Catherine de Médicis, comme Jésus-Christ. Et puis, vous avez des personnages dont, en général, très peu de gens ont entendu parler parce que ce sont des personnages relativement secondaires de la comédie humaine. Et dans cette même salle, on a présenté également une généalogie pour expliquer la complexité des liens entre les personnages. Donc ça, si vous voulez, c'est une salle, c'est assez intéressant parce que ça fait vraiment réfléchir les gens, enfin, ça leur crée une émotion, ça leur crée un choc. Et en réalité, le propos de la salle est très faible. Si vous voulez dire ce qui est dans la salle, c'est Balzac a créé beaucoup de personnages et ils avaient des relations entre eux assez compliquées. Point. Alors, si vous dites ça à des gens, si vous voulez, ça ne va pas leur donner envie de lire. Mais quand visuellement, ils voient toutes ces plaques, tous ces personnages et cette généalogie, ça les marque profondément et 10 ans après, ils s'en souviennent encore. Et ça les conduit à la lecture. Donc, si vous voulez, c'est un peu cette alchimie qu'on ne peut pas deviner. Il y a des fois, on fait des salles, on a l'impression que l'idée est bonne et puis, ah non, ça ne prend pas. On voit les visiteurs qui arrivent, qui s'assied, qui attendent qu'on leur parle. C'est raté. La première médiation dans un musée, c'est quand même les œuvres. Et dans cette salle-là, les gens, ils arrivent en groupe, ils vont se mettre sur les vitrines et ils n'écoutent plus. Et bien là, on est content. On se dit, enfin, ça marche. C'est une salle qui est réussie. Et s'ils attendent qu'on leur parle, c'est pas bon. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas magique. Ça dépend aussi beaucoup des œuvres qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est un vrai problème parce que dans tous les musées de ce genre, vous avez un fonds ancien. Nous, le fonds ancien, ce sont des manuscrits, ce sont des documents passionnants. Mais le problème des documents passionnants, c'est qu'il n'est passionnant que pour celui qui l'étudie. Et donc, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Enfin, M. Fournier a présenté une façon originale de le montrer, mais c'est pas simple. Si je montre des manuscrits passionnants, ça ennuie tout le monde. Les gens, ce qu'ils voient, c'est une feuille de papier plus ou moins jaune, avec plus ou moins de rousseur, avec des choses illisibles écrites dessus dans une encre un peu délavée. Ça ne parle pas, si vous voulez. Donc, il s'agit d'avoir ce fond ancien, d'avoir des portraits de monsieur très sérieux, de dame très, très, très comme il faut. Mais enfin, là encore, ce n'est pas très évocateur. Si je vous parle de Zulma Caro, si vous voulez, ça ne va pas forcément vous amener à vous précipiter dans Cousin Ponce. Ce n'est d'ailleurs aucun rapport. Mais donc, on a ce fond ancien et il y a après qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on arrive à réutiliser ça autrement? Qu'est-ce qu'on peut faire comme acquisition pour essayer d'ouvrir des portes? Et les portes qu'on ouvre, de toute façon, ne sont déjà pas les portes de l'enseignement. Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer non plus. Le style de Balzac, c'est une chose, je ne sais pas montrer le style de Balzac, j'y arrive pas. Enfin, voilà. Bon, je ne suis pas connu pendant des heures, donc je m'arrête.
Travail que vous avez fait avec cet enseignant qui était venu lors de notre session, ça je pense que par rapport à la médiation et à relire Balzac ou à lire Balzac.
Oui, alors on a fait un travail assez intéressant, ça c'est pas moi qui suis l'auteur de l'idée, c'est Frédéric Sillard qui est un professeur de l'école Olivier de Serres et qui a eu une idée géniale, je dois dire, qui consistait à faire travailler toute une classe sur des jeunes créateurs sur des descriptions de Balzac. Alors quand, je ne vous raconte pas, quand il a annoncé ça à ses 60 élèves, alors il y en avait qui ne savaient pas, qui ne savaient pas qui était Balzac, donc ça allait bien, ça ne les gênait pas trop. Mais ceux qui en avaient vaguement entendu parler, ça a été l'horreur. Mais Balzac, mais non, mais il y en a qui sont mis à ses genoux. Pitié, monsieur, je n'ai jamais lu un livre de ma vie. Ne me faites pas lire un livre, ce n'est pas possible. Faites-moi marcher sur les mains jusqu'à Notre-Dame et revenir. Mais pas ça, pas ça. Et puis, bon, on leur a dit, non, c'est, vous faites ça. Donc, vous, c'est un travail d'histoire de l'art. C'est-à-dire que vous deviez prendre une description de Balzac, on en proposait une douzaine, et à partir de ça, faire une analyse des éléments dont parlait Balzac, les retrouver, donc faire une recherche d'histoire de l'art, et ensuite, à partir de cette recherche, faire un rendu dans des formes de techniques tout à fait contemporaines de ce que l'on avait perçu de ce texte. Et au bout d'un mois, on a vu revenir les étudiants en disant, ah, mais monsieur, Balzac, c'est pas si mal que ça, mais vous savez, il n'y a pas assez de descriptions. Parce qu'en fait, comme Balzac est uniquement dans le marqueur social, il va juste donner les petites touches qui vous permettent de définir socialement la personne, mais il n'y a rien de précis. Donc quand il vous parle d'un mobilier pourri, rongé, crevassé, etc., ben, ça ne vous dit pas ce que c'est que ce mobilier. Donc essayez de dessiner une chaise à partir de ça, bonjour. Et puis en plus, quand par hasard, Balzac vous parle d'un baromètre à capucins, eh bien, au Louvre, vous ne verrez jamais un baromètre à capucins. Le baromètre à capucins dans l'écrit de Balzac, c'est l'équivalent du petit coucou que vous avez racheté sur la station d'autoroute en revenant des sports d'hiver. En plastique, évidemment, made in China. Bon, c'est... Et du coup, ils ont compris, si vous voulez, qu'en fait, ce qui est intéressant chez Balzac, ce n'était pas ce qu'il présentait, mais c'était le mécanisme consistant à vraiment utiliser le marqueur social, comme aujourd'hui on peut, en quelques phrases, définir quelqu'un à partir de la façon dont il s'habille, du véhicule qu'il conduit, de la petite maison qu'il habite en banlieue, etc. Donc une fois qu'ils ont compris ça, tout s'est éclairé et ils ont restitué Balzac dans leur langage à eux, mais en contemporain. Alors il y avait un travail fantastique, par exemple, qui avait été fait sur un roman qui n'est pas tellement lu, qui s'appelle Béatrix. Béatrix, c'est un roman qui se passe en Bretagne et vous avez un génie de littérature, Camille Maupin, Félicité Destouches, Camille Maupin en littérature, c'est Georges Sand qui a servi de modèle, qui a éduqué un jeune obro dont elle est tombée amoureuse sans véritablement s'en rendre compte en réalité. Et puis à un moment, elle fait venir de Paris une de ses amies, qui est Béatrix, qui est une froide beauté, enfin une allumeuse, quoi, disons-le, qui, voyant que Camille Maupin est amoureuse sans vraiment s'en rendre compte du jeune garçon, va évidemment se précipiter sur le jeune garçon, et donc elles vont s'entre-déchirer pour ce jeune calixte qui n'y comprend rien. Et du coup, mes jeunes de l'école Olivier de Serres m'ont dit, mais au fond, ce garçon, finalement, si on veut rendre ça aujourd'hui, on ne va pas restituer des dames en tenue 19e siècle, ça n'a pas de sens. En fait, ce qui lui arrive, c'est le jeune puceau de banlieue qui, d'un seul coup, se trouve déchiré par une super chanteuse rock et une top modèle. Et donc, ils ont restitué ça en refaisant des illustrations de Gucci. Mais en fait, ils ont tout compris, si vous voulez. Ils ont tout compris. Et donc, ils ont vraiment restitué leur vision de Balzac de façon extrêmement rafraîchissante. Mais je peux vous dire qu'après une exposition pareille, d'abord, vous lisez Balzac complètement différemment, forcément, parce que c'est ça. C'est comme ça qu'il faut lire. Maintenant, quand je lis Béatrix, je vois effectivement des beautés contemporaines. Et je ne me représente
parce
pas les gravures anciennes.
Parce que vous avez montré leur travail.
Comment ? Et j'ai montré leur travail. Et après, j'ai fait faire le même travail des Taïwanais. Alors, les Taïwanais, ils sont complètement éclatés parce qu'en plus, eux, ils n'ont pas le handicap qu'on a en France. C'est-à-dire qu'ils sont pas, comme ils connaissent rien à l'histoire de France, ils connaissent rien à la littérature, ils sont immédiatement plongés dans le système d'analyse de Balzac et ils ont retranscrit des œuvres dans lesquelles il y avait les problèmes sociétaux de Taïwan aujourd'hui analysés grâce à Balzac. Et ça aussi, on l'a montré en France. Donc, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'expliquer au public que Balzac, c'est pas simplement ce qu'il décrit. En fait, si vous voulez, il y a un proverbe qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Balzac, c'est pratiquement ça. Si vous voulez, Balzac analyse la société. Si on regarde si on s'intéresse uniquement à ce qu'il décrit, on n'a rien compris. Ce qu'il faut voir, c'est l'outil. Et l'outil, parce que l'outil, il est universel. Il s'applique partout. Et c'est ça qui fait que Balzac, on peut lire aujourd'hui. Sinon, il faudrait fermer le musée. Ça n'aurait aucun intérêt.
Oui, je peux. Est-ce que ça marche ? Alors, je suis élève conservateur ici, en monument historique. Et ma question concerne donc les deux dernières interventions. J'aimerais savoir si les deux monuments dans lesquels ont eu lieu les expositions étaient protégés au titre des monuments historiques. Et si c'est le cas, est-ce que vous avez des relations en particulier avec la DRAC, le service de la conservation des monuments historiques, et de quelle nature ?
Nous avons des relations excellentes. Ça suffit ? Comme réponse ?
Concernant surtout le bassin d'eau, est-ce qu'on vous a embêté entre guillemets ?
Non, alors oui, évidemment, les deux sont protégés au titre des monuments historiques, sachez partiellement. Les papiers peints auxquels je n'ai pas voulu qu'Yves touche, sont classés, papier au lion, et le bâtiment est inscrit et aussi protégé, le site est protégé. Le Priory Saint-Côme est entièrement classé, ce qui a posé pas mal de questions d'ailleurs sur les phases archéologiques. Mais plus, vous savez, les bisbilles, c'est à l'intérieur des dracs entre les différents conseillers. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est pas mon style de déblatérer. Sur les vitraux de Zaouki, ça a été relativement compliqué puisque vous vivrez cette dure réalité des différentes failles spatio-temporelles entre le temps politique, le temps budgétaire et le temps artistique, qui sont trois temps qui n'ont pas grand-chose à voir, et votre métier va être en partie de faire cohabiter ces différentes temporalités. Et donc, pour Zaouki, il fallait maintenant tout de suite qu'on fasse les choses. Bon, il y avait aussi la vie propre de l'artiste, et, sans ironie déplacée là pour le coup. Il a fallu faire assez rapidement la mise en place de ces œuvres et passer quand même en commission supérieure des monuments historiques. Donc nous sommes passés un petit peu très juste et nous avons heureusement eu le soutien constant et très positif du conservateur régional des monuments historiques, Monsieur Blin, à l'époque à la DRAC Centre, qui était déjà très sensibilisé aux questions de vitraux contemporains en monuments historiques et qui donc nous a plus qu'épaulés sur ce dossier. Sinon, nous travaillons très, très, très régulièrement avec la DRAC. On fait des tournées avec eux. Au Conseil général, nous avons un autre conservateur qui est chargé de mission, mais qui a pour mission d'aider les communes et les particuliers. Il y a une politique patrimoniale en termes de monuments historiques au Conseil général de l'Indre-et-Loire, puisqu'on est dans une région quand même touristique et de monuments. Et il est par ailleurs CAOA, donc il a un lien très direct avec la DRAC et c'est la personne qui connaît le mieux le mobilier, notamment religieux, de Touraine que je connaisse et de très très loin. Donc les liens sont constants, on s'appelle évidemment très régulièrement, avec la conseillère musée évidemment qui vient de partir à la retraite, là, qui était à Nicloterette. Oui, évidemment, je dirais qu'on a la DRAC en ligne tous les mois, ça c'est certain, et tous les 15 jours, et heureusement. Après, chacun ses contraintes. Sur tous nos travaux, la DRAC nous a toujours soutenus. Le travail qui m'a pris le plus de temps pendant ces années au Conseil général, puisque je viens d'en partir pour tout vous dire, mais c'était la forteresse de Chinon, sur laquelle on a fait des travaux conséquents de restauration, mais aussi de restitution, de construction de bâtiments neufs, scénographie, etc. Donc il y avait des choses très très diverses. Et la DRAC ne subventionne pas toutes les parties des interventions. Elle n'a subventionné en l'occurrence que les parties restauration, monuments historiques. En revanche, l'Europe et la région nous ont aidés sur l'ensemble du programme. Mais évidemment, CRMH, inspection et ABF étaient présents constamment sur le chantier. On a des relations difficiles parfois pour au Grand Précigny, qui a été un autre chantier important, puisque c'est le musée de la préhistoire qui est un site essentiellement consacré au néolithique, et là aussi on l'a complètement refait. On avait un château et le projet d'un bâtiment neuf avec un historique très houleux avec la DRAC, puisque le Conseil général avait fait vitrer sans autorisation des grandes baies dans l'aile Renaissance du château. Et vraiment, c'est vrai que c'était un peu à la sauvage, c'était fait de façon peu subtile par rapport au monument. Et ce conflit était resté entre la DRAC et le Conseil général. Et donc le projet de musée de la préhistoire que le Conseil général voulait totalement refaire a été de faire un musée enterré, puisque la DRAC a dit « ça suffit, vous les goujats, là, vous arrêtez de toucher aux monuments historiques, ce que vous avez fait jusqu'ici était atroce ». Donc voilà, le dialogue était rompu, ça peut arriver. Et il suffit de se parler en fait entre adultes, de donner quand même des garanties de part et d'autre. Et finalement, moi quand je suis arrivée, le conseil général hésitait quand même à faire ce musée enterré à côté du château. Enfin, ça n'avait vraiment aucun sens. On avait un château magnifique vide et un musée enterré à côté avec en plus des problèmes de fonctionnement juste invraisemblables. C'est allé jusqu'au concours d'architectes, etc. C'est allé assez loin. On a renoncé à ce projet et on a fait un nouveau projet en rétablissant le dialogue avec la DRAC et en leur expliquant qu'on allait faire les choses dans les règles avec eux. Et on a réinvesti le château en construisant une aile très contemporaine avec un architecte allemand, mais en réintégrant les salles du château. Et le résultat est... à mes yeux réussi, mais c'est toujours un équilibre, hein, c'est toujours une histoire d'équilibre fragile et de dialogue.
Merci. En quelques mots, une réaction à l'adresse de vous tous. Plus que d'autres intervenants dans le colloque, vous incarnez souvent des expositions où le budget est plus serré qu'ailleurs. Vous avez souvent dit qu'on travaillait en régie avec les équipes dédiées. J'oserais presque dire de temps en temps avec les moyens du bord, et j'y mets évidemment plein de guillemets. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque part, c'est aussi une sorte de luxe d'avoir des équipes dédiées. C'est certainement super stimulant pour le conservateur qui, du coup, incarne peut-être plus qu'un autre ce travail d'exposition-là, où voilà, il ne s'agit pas de signer un chèque à un scénographe de luxe ou à des équipes, mais plutôt de travailler justement avec ses moyens du bord. Et voilà, je me disais que c'était finalement peut-être une forme de luxe aussi d'avoir des agents dédiés à ces questions-là. Enfin, voilà.
Je ne veux pas mobiliser la parole, mais évidemment, évidemment. Et je peux vous dire que les visites, quand on a la chance de travailler avec des artistes contemporains un peu coopératifs, on a toujours fait des visites avec les équipes. Et évidemment, quand je dis avec les équipes, c'est avec les femmes de ménage, avec qui un peu souvent donnent des éclairages auxquels on n'avait juste pas du tout pensé, avec les menuisiers, avec évidemment que Céry, je ne veux pas faire la bisounours. Hein, mais c'est vrai, ce sont des publics très différents et qui n'ont pas forcément le goût régulier de visiter les monuments et de se coltiner des tartines de références historiques, mais ils voient des choses qu'on ne voit absolument pas, et surtout en termes de stimulation. Mais ça, c'est le management, vous aurez à le vivre. C'est juste une question d'humanité, mais c'est passionnant.
Globalement, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que typiquement au musée d'histoire naturelle, c'est vraiment tout est fait à l'interne. J'ai la chance d'avoir une collaboratrice qui est responsable du service des publics et qui a véritablement du talent pour la scénographie. J'espère que vous en êtes rendu compte. J'ai une équipe technique qui est dévouée, qui trouve des solutions. On a beaucoup de matériel à disposition. C'est vrai qu'à une époque, il y a eu des investissements. On a une très grande machine à scier les panneaux de niveau professionnel. On travaille même pas en régie avec les services centralisés de la maintenance, c'est-à-dire que j'ai un électricien et un menuisier qui travaillent en permanence au musée sur l'entretien du bâtiment, la maintenance des expositions, etc. Autant vous dire qu'ils ne chôment pas parce que c'est aussi un vieux bâtiment et qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est vrai qu'on a aussi une machine à découper le vinyle qui nous permet de... on fait les textes, on les découpe, on les colle. On peut faire à la limite tout au dernier moment, on peut tout rechanger. Cette flexibilité, c'est très bien. Cependant, il y a quand même un aspect, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que, à force d'avoir habitué notre tutelle et les services, la direction générale de la culture, à ce que le musée d'histoire naturelle arrive à fonctionner à pas cher, etc., c'est que parfois, à mon sens, et je pense que Julie, quand elle a parlé de l'échelle, à un moment, elle était là en disant « Ouh, faut pas regarder », nous aussi, je trouve qu'on est obligé de faire des choix qui, en termes peut-être de sécurité, peut-être parfois de conservation, que parfois je regrette, je me dis « on ne devrait pas aller jusque-là dans le compromis », mais à un moment donné, c'est ça ou rien. Je vais prendre un exemple, ne le répétez pas, mais le médium qu'on utilise pour les expositions, il n'est pas classé anti-feu. Pardon ? parce que voilà, sinon ça coûterait 4 fois plus cher et qu'on ne pourrait pas faire l'exposition. En même temps, vu que globalement le musée n'a pas d'avis favorable de la commission de sécurité, de toute manière, bon, voilà, je ne suis plus à ça près, mais je le fais aussi en conscience en me disant que bon, tous les jours le musée ouvre et potentiellement s'il y a un problème, c'est ma tête sur le bio aussi un petit peu, quoi. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que là, on est dans une période où globalement les collectivités territoriales et l'État aussi commencent à avoir des problèmes financiers. Et à un moment donné, je sais pas, enfin, bon, on va étirer le chewing-gum au maximum et je croise les doigts.
Oui, bien sûr.
Oui, alors, une courte intervention rapide d'un établissement qui compte 515 agents, les Archives nationales. Donc, quand on n'a pas d'argent, on internalise tout. Quand on en a, ben, voilà, on fait travailler des professionnels, enfin, des corps de métier de l'extérieur. Et c'est vrai que bon, il y a des métiers de toute façon qui n'existent pas dans la fonction publique. Il n'y a pas d'éclairagiste dans la fonction publique. Alors ça, franchement, non. C'est le théâtre, c'est le spectacle vivant et c'est le même métier que celui qui consiste à éclairer des œuvres ou des documents, etc. Voilà. L'infographie aussi. Là, je crois que bon, c'est très, très, très pointu et là, j'ai du mal à faire internaliser des choses de qualité en matière d'infographie. Et tout ce qui, s'agissant de dispositifs audiovisuels, allie images fixes, images animées, son et de plus en plus animation en relief. Là aussi, je crois que ce soit dans un conseil général, une collectivité territoriale en général, un établissement public, même de grande importance, on n'a pas ces savoir-faire. Hein. Ça va tellement vite. Voilà. Mais c'est vrai que on peut internaliser même dans des grands établissements.
Tu as eu souvent une expression d'homme orchestre. C'est vrai que on fait quand même des choses très différentes et on est souvent des hommes orchestre, mais c'est vrai que c'est toujours un équilibre, quoi. C'est vrai qu'il y a des fois où ça va trop loin et où il faut savoir dire stop à sa tutelle. Et ça c'est toujours cette histoire d'équilibre et de difficulté.
Ouais, j'ai une note. Peut-être s'il y a encore possible une dernière question pour Judith. J'étais très intéressé dans ton exposition Identité sur la démarche participative que tu proposais aux jeunes gens et voilà, les amener dans la même démarche qui avait été la tienne pour les autres continents. Je voulais savoir si pour tes prochaines expositions, tu avais des idées un peu similaires, mais pour d'autres types de collections, genre Naturalia ou ce genre de choses.
Alors, cette démarche participative, c'est vrai que j'aimerais l'intégrer au maximum quand c'est possible dans les expositions. Pour l'instant, là, sur l'exposition Néandertal qu'on prépare, on n'est pas forcément dedans. Enfin, on a quand même une reconstitution de grotte qui me semblait un peu vide et je me dis que c'est le bon endroit pour inviter tous les gens à prendre leur smartphone et à faire des selfies de Néandertaliens, enfin, ou devant une reconstitution. Mais sinon, pour l'instant, enfin, j'ai pas forcément de projet à te présenter. Par contre, je voulais quand même dire quelque chose parce qu'on aime bien expérimenter la question de la médiation. Et donc, c'est pas tant sur l'exposition Néandertal, mais une qu'on va faire après. Début 2015, ça va être une exposition assez courte. Vous avez vu que Identité était très long. Là, on voudrait faire quelque chose de court. Et donc, on est sur un public hyper spécifique puisqu'on voudrait faire une exposition à destination d'un public non lecteur. Donc, on va dire les 3-6 ans à peu près. L'idée, c'est d'adapter un classique de la littérature jeunesse qui s'appelle « L'histoire de la petite taupe ». Peut-être que vous connaissez, c'est une petite taupe qui sort de son trou et quelqu'un lui a fait caca sur la tête. Et donc, elle va voir tous les animaux de la ferme pour essayer de trouver le coupable. Donc, l'idée, c'est d'abord d'illustrer ce qui est des illustrations d'un artiste allemand dans le livre avec des naturalisations que nous avons en collection. C'est de mettre en place aussi une médiation humaine principalement pour autour du conte, mais c'est aussi du coup d'avoir un petit peu des aspects scientifiques, même si clairement là on s'adresse à un public pour qui la notion de science, mais voilà, la question de du lien entre l'alimentation et puis les déjections sur les animaux coprophages, et puis qu'est-ce qu'on peut savoir sur la taupe, etc. Donc voilà, ça c'est encore des choses qu'on va tester. J'espère que ça va marcher. Je pense que on va aussi créer un livret, alors cette fois-ci pas un livret jeu pour les enfants, puisqu'ils ne savent pas lire, donc ça n'a pas de sens, mais peut-être un livret de médiation pour les parents, puisque le souhait, c'est de ne pas mettre de texte dans l'exposition, puisque les destinataires de l'exposition ne savent pas lire, donc il n'y aura pas de texte, mais pour que, en visite libre, en famille, les accompagnants, les parents, les grands-parents, puissent se mettre en position de médiateur. Voilà, j'ai répondu à côté, mais désolée.
Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci de votre attention. Merci beaucoup aux intervenants.
Bravo.